Donc nous nous retrouvons pour la seconde partie de ce chapitre, Le Sauveur. Vous avez ouvert le document qui s'appelle Le Sauveur Suite. Et donc voici la seconde partie. Où je vais méditer, vous pouvez regarder le plan, je vais méditer sur maintenant le baptême du Christ, les tentations du Christ. Ce sont deux gros morceaux. Bien évidemment, notre compréhension, commençons par le baptême, notre compréhension du baptême chrétien nous égare un peu quand il faut comprendre le baptême du Christ. Improprement nommé ainsi d'ailleurs, mais on n'a pas trouvé de meilleure appellation. Il faudrait dire épiphanie ou hiérophanie, c'est-à-dire manifestation du sacré. Épiphanie, c'est épi, ça veut dire au-dessus, sur. Et phanéro, visible. Et donc l'épiphanie, c'est sur ce qui est survisible, c'est-à-dire évident, manifeste, ou bien ce qui se manifeste. Voilà, c'est ça que ça veut dire, épiphanie. Et le baptême du Christ est donc une épiphanie. Il se manifeste, il manifeste sa divinité. Le baptême du Christ était fêté jadis en même temps que les noces de Cana. Ben oui, parce que là aussi, c'est une épiphanie, du moins saint Jean le dit clairement, hein, puisque le récit des noces de Cana se conclut par ces mots. Tel fut le premier signe, c'était à Cana, il manifesta sa gloire. Voilà, c'est donc épiphanéro. C'est encore le cas de nos jours, hein, que ces deux fêtes sont conglomérées chez les orthodoxes, qui fêtent donc la théophanie 10 jours après Noël. Et la théophanie, c'est donc la fête du baptême du Christ, enfin ce que nous appelons le baptême du Christ et les noces de Cana. Je viens d'ailleurs d'utiliser un nouveau mot, théophanie, ça veut dire la manifestation de Dieu, hein, donc la visibilité de Dieu, l'évidence de Dieu, la manifestation de Dieu en tant que Trinité. C'est bien ça le sens de ce baptême de Jésus par Jean-Baptiste. C'est ce que nous allons voir. Et tout d'abord, qui est Jean-Baptiste? Que fait-il là? Et qu'est-ce qui lui prend? Jean-Baptiste, en effet, est d'une famille plutôt bon chic, bon genre, une famille réputée, son père est de la classe sacerdotale, et il dessert régulièrement le temple quand c'est son tour. C'est donc Zacharie, dont on parle dans l'évangile de Luc. C'est probablement quelqu'un qui connaît son père et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est probablement quelqu'un qui connaît fort bien les usages religieux et leur sens. Il est probablement très cultivé, très instruit des choses, des rites et des choses de la théologie. Aussi procède-t-il à une sorte d'amplification d'un rituel très connu chez les Juifs. Ce sont les bains rituels. Toutes les bonnes familles, il faut être un peu fortuné quand même, ont un espace dédié à cet usage dans leur maison. Et quand vous n'avez pas les moyens de vous payer un mikvé privé, un mikvé c'est donc un bain rituel, hein, eh bien vous allez à ceux qui sont aménagés collectivement. Donc toutes les bonnes familles ont, souvent au sous-sol, une sorte d'espace aménagé, comme une baignoire, si vous voulez. Ici, on est en Espagne, hein, mais on en a découvert à Strasbourg, à Bayonne, en Alsace, à Cologne, en Allemagne. Le mikvé est un bain de purification. Hein. Ce n'est pas sanitaire, ce n'est pas une salle d'eau, ce n'est pas non plus une baignoire pour se délasser, c'est un rituel religieux pour tout ce qui touche au corps. Tous les manquements aux mitzvot, c'est-à-dire les prescriptions, il y en a 613, tous les commandements, tous les manquements aux mikvot font contracter une impureté rituelle. Et donc le bain, accompagné de prières bien sûr, nous en lave de cette impureté rituelle. Voilà, ça c'est la tradition juive. Les plus fervents n'y manquent pas bien sûr. Eh bien, c'est ici que Jean-Baptiste innove. Il procède à grand succès à un geste de prophète, puisque lui, il ne va pas dans un mikvé, il va au Jourdain. Mais c'est-à-dire, le Jourdain, c'est le fleuve frontière vers la terre promise. Et il demande non pas une espèce d'observance sur la pureté rituelle, non pas des pratiques liées aux scrupules de pureté, mais il demande, lui, une conversion existentielle. C'est-à-dire, eh bien, il faut changer sa vie. Alors que jamais un juif observant les 613 mitzvot ne voudra convertir sa vie. Quelle drôle d'idée. Ouais, il pratique scrupuleusement les commandements. Et donc là, il y a quelque chose de radicalement nouveau chez Jean-Baptiste, évidemment, que reprendra et que va amplifier Jésus. Et donc, tout ça est très nouveau. Mais il a beaucoup de succès, hein. Il est tout à fait dans le ton des prophètes qui disaient « Ce n'est pas vos offrandes que je veux, dit Dieu par exemple par Isaïe, mais que vous pratiquiez la justice. » Les religieux d'appareil préfèrent nettement qu'on s'en tienne aux observances rituelles. Bien sûr qu'ils préfèrent ça, parce que là, ils peuvent contrôler, tarifer et culpabiliser. Donc ils ont encore l'autorité, le pouvoir. Et donc tous les religieux d'appareil du monde entier ont les mêmes défauts, si j'ose dire. Mais, dit Dieu, cette fois par Amos, ce qui me répugne, c'est que vous soyez vautrés dans des divans de luxe. Ce qui me répugne, c'est que vous consommiez des loisirs très onéreux pendant que les pauvres ont faim. Dans Amos, chapitre 6. Donc, vous voyez, il utilise un discours de prophète, il secoue un peu, il change le rituel du mikvé et il a beaucoup de succès. C'est ainsi que Jean-Baptiste se fait une réputation qui devient assez encombrante, hein, puisque les pharisiens lui envoient des enquêteurs. Il jouit d'une très bonne réputation parce qu'il est bien plus audacieux, bien plus authentique que la classe sacerdotale. Et il a aussi une très belle réputation parce qu'il est quand même moins fermé, moins sectaire, on pourrait dire, que les Esséniens. Il est moins à l'écart, il est plus dans la vraie vie, si on peut dire. Et son geste rentre bien, hein, le bain, ça rentre bien dans les pratiques connues et sincères du peuple juif. Donc il n'y a aucun problème, les gens qui viennent là viennent en effet pour un bain rituel qui n'est plus un bain de purification, mais qui est un bain de conversion. Déjà, quand on a compris ça, on a beaucoup compris. Mais une question se pose immédiatement. Que vient faire Jésus là-dedans? Bien sûr, il est fort loin, Jésus, des prédications de culpabilité qui demandent sans cesse et sans cesse des purifications. Et lui-même n'éprouve ni cette culpabilité souvent narcissique, ni cette notion biaisée de pureté, mais a-t-il besoin de se convertir? Bah, probablement pas. Alors, quel est le sens? Eh bien, il vient nous rejoindre. Il vient rejoindre ceux qui peuvent être rejoints, tout simplement. Pas la peine d'aller vers ceux qui savent comment être quittes, comment ne rien devoir. Comment être pur? Il va vers ceux qui désirent vraiment changer, ou au moins tenter. Il vient vers ceux qui cherchent le bien, pas vers ceux qui le contrôlent et le décrètent. Il se plonge, c'est le cas de le dire, au milieu d'eux. C'est pourquoi j'ai choisi deux tableaux de Nicolas Poussin qui rendent bien compte que Jésus vient se joindre à ceux nombreux qui commence quelque chose. Voilà le tableau de 1635. Il y a du monde. Il y a du monde. Et c'est là que Jésus vient. Il y a du monde, même sur l'autre rive. Quelques-uns sont tellement empressés de recevoir le baptême qu'ils sont dévêtus, qu'ils sont en train de se dévêtir. D'ailleurs, tiens, pourquoi? Ils ne sont pas encore dans l'eau, hein, Jean-Baptiste non plus. On est donc au moment de sa prédication, en fait, hein. Et vous avez deux hommes qui manifestent leur repentir. Ils tombent aux pieds de Jean-Baptiste, qui semble les bénir, les enseigner. Et déjà, ils veulent le baptême de conversion. D'autres, bien plus sceptiques, regardez bien, du côté du cavalier. Voici le second hein, de 5 ans antérieurs, plus lumineux. Quelques bougons, hein, toujours, ils sont toujours là, mais moins arrogants, plus renfrognés, il n'y a pas de cavaliers. Mais les autres sont prêts à se jeter à l'eau. Hein, ils sont tous là, prêts à recevoir immédiatement ce baptême de conversion. Et de l'autre côté de la rive, cette fois-ci, vous comparerez plusieurs fois, si vous voulez, les deux tableaux, on voit sûrement le Christ qui vient, qui est debout, là, comme une pâle lumière vers le fond, et qui vient rejoindre ces gens-là, parce que, avec eux, la moitié du travail est fait. Déjà, pour expliquer le salut par Jésus, c'est pas mal, mais ça fait de lui, tout juste, un homme religieux qui a du bon sens, qui a un bon discernement. Inutile de faire boire un âne qui n'a pas soif. Mais évidemment, vous vous en doutez, il y a beaucoup plus dans le baptême du Christ. Les Byzantins nous le disent, je vous le rappelle, hein, c'est une théophanie. Donc Dieu se montre. Et il se montre comme sauveur. Comment? Mais il y a 4 choses. Le Jourdain lui-même, la colombe, le ciel s'ouvre et la Trinité. Le Jourdain lui-même est en effet signe de salut. Si Jean-Baptiste s'est mis là, loin des villages, loin des bains rituels, c'est parce que le Jourdain est pour tous les Juifs la frontière. C'est la frontière que Josué, à la tête des Hébreux, a franchie en grande pompe pour entrer en terre promise. Et donc venir baptiser ici, c'est annoncer à nouveau la terre promise, annoncer une nouvelle terre promise, celle d'un peuple authentiquement religieux, ayant le souci de la justice, ayant le souci du geste fraternel. Et Jésus, en se faisant baptiser par Jean, confirme cette intuition. Je vous l'ai dit, il vient rejoindre ceux qui sont joignables. Le ciel qui s'ouvre, la voix qui se fait entendre, tout lui fait dire: je suis la terre promise. Ne cherchez pas des utopies ici ou là, ne cherchez pas une terre paradisiaque, ça n'existe pas, ne cherchez pas une nation sans querelle, sans impôts, sans violence, que sais-je. La terre promise, c'est Dieu fait homme. La terre promise, c'est moi. Deuxième élément, la colombe. La colombe confirme cette idée. Je vous montre cette image un peu rigolote de l'arche de Noé. Elle vient de là, bien sûr, hein. Histoire fabuleuse que tout le monde connaît. Quand le corbeau lâché par Noé ne revient pas, de 2 choses l'une, soit il est mort d'épuisement, soit il a trouvé une terre ferme. Alors il envoie une colombe qui tarde à revenir, mais revient finalement avec un rameau d'olivier. Il y a la vie quelque part, c'est le salut. La colombe au-dessus du Christ sortant des eaux, c'est bien la même chose. Il y a une terre promise quelque part, c'est le salut. Mais c'est dorénavant le Christ, le salut. C'est lui qui nous fait sortir du désastre. Vous voyez comme ces images sont, la colombe, le Jourdain, et même les images que je montre, sont de vraies leçons, hein, mieux qu'un long exposé. Je vous ai annoncé 4 mots, donc voici les 2 suivants, le ciel s'ouvre et la Trinité. Le ciel s'ouvre, voilà quelque chose de tout à fait singulier dans chacun des récits du baptême du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ciel était fermé. Les prophéties s'étaient tues. La lampe du temple n'était plus entretenue. Ce sont là des expressions que nous trouvons dans les prophètes. La religion s'est éteinte. Elle s'est sclérosée. Trop de distance entre Dieu et sa création, il n'y a plus d'amabilité, il n'y a plus que des prescriptions. C'est quelque chose que tous les religieux du monde entier éprouvent très fortement. Par ailleurs, le ciel est distant. Dieu n'est pas si aisément expérimenté. Le ciel, voilà, est donc fermé pour ces 2 raisons. La première, c'est que la religion est devenue terne, voire carcérale, Et la seconde, elle est mystique, hein. C'est que Dieu n'est pas saisissable. Et donc il s'est fermé, en quelque sorte, que ce soit pour des raisons métaphysiques ou pour des raisons d'affadissement. Le peuple d'Israël vit dans l'espoir de ce ciel ouvert, dans l'espoir qu'il y ait encore possibilité de connaître, sinon Dieu, au moins quelque chose de lui. C'est toute la méditation de l'échelle de Jacob. Ce patriarche du livre de la Genèse, qui fuit son pays et la colère de son frère Ésaü, fait un songe dans sa fuite, et là, il voit une échelle entre ciel et terre avec des anges qui y montent et en descendent. C'est donc que le ciel s'ouvre encore, que Dieu se donne encore à connaître. Jacob s'éveille et dit: En vérité, c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Bethel. Autant d'expressions qui peuvent strictement viser Jésus au baptême. Il est la porte du ciel, il est la maison de Dieu. Qui d'autre mieux que lui? D'ailleurs, lui-même confirme ce propos extraordinaire. On le lit dans Saint Jean, au chapitre 1er, c'est dans l'entretien avec Nathanaël. Jésus lui dit: Tu t'étonnes, mais tu verras mieux encore. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. On est donc ici dans une théologie du salut qui consiste à dire qu'être sauvé, c'est entrer dans la connaissance de Dieu, être connu de lui et le connaître, entrer dans sa compagnie, voire, par la vertu de l'incarnation, entrer dans la familiarité avec Dieu, puisque par le Fils nous sommes adoptés en quelque sorte, puisque Jésus nous a fait frères. Reste maintenant mon quatrième aspect de ce salut mis en image par le baptême du Christ. C'est la présence de la Trinité. Ça, c'est assez évident. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de cette évidence trinitaire, que les Byzantins appellent ces fêtes des théophanies. Dieu se manifeste en tant que Trinité. Ça, c'est assez facile à repérer, tant dans le texte lui-même que dans l'iconographie. Donc, vous avez la voix du Père qui se fait entendre, celui-ci est mon fils, bien-aimé, et la colombe entre les deux, si j'ose dire. C'est Jésus comme fils de Dieu, reconnu, annoncé comme tel. Et c'est sous la forme donc d'une colombe, la présence de l'Esprit, qui vient demeurer sur lui. Comme vous le voyez sur cette mosaïque. Voilà pour le baptême du Christ. C'est un grand moment, comme vous voyez. Et encore, je n'ai pas tout à fait fini, j'y reviendrai, mais pour un détail, dans ma dernière partie. Abordons maintenant un autre massif, les tentations. Les tentations du Christ. Le Christ fut-il tenté? Avait-il, comme nous, quelque appétence au mal? Appétence, ça veut dire une sorte de quête mêlée de plaisir et de calcul. En nous, cela relève plutôt de l'involontaire. Il y a en effet une appétence parfois au mal, c'est comme ça. Mais on peut toutefois l'exciter, cette appétence, l'amplifier ou la pondérer, la tempérer, notamment en la sublimant par des satisfactions de l'existence qui ne soient pas empoisonnantes. On peut aussi et plus facilement la tempérer, la contester, cette appétence au mal, en développant et en entretenant l'appétence au bien, qui tout aussi certainement habite en nous. Bon, peut-être verrez-vous ça en anthropologie, c'est le cours suivant, au troisième trimestre. Le Christ, lui, n'a pas de goût pour le mal. Du moins, c'est évidemment ce que nous croyons. Pour le plaisir, oui, bien sûr, il a du goût pour le plaisir, mais pas pour le mal. Dire cela, c'est aussi parler, dire tout cela, tout ce que je viens de dire, c'est aussi une manière de parler d'une façon optimiste de l'homme, vous voyez. C'est-à-dire, oui, le bien peut pondérer le désir du mal. L'homme a un déplaisir, même parfois un naturel dégoût pour le mal, pour l'injustice, pour la violence. Être pleinement homme, ça ne veut pas dire faire et goûter indifféremment le mal ou le bien. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose de destructeur pour l'homme quand il fait ou quand il subit le mal. C'est le bien et la paix qui sont notre destinée, qui sont la nature de l'homme. Tout ce qui l'en éloigne, l'éloigne de son humaine vérité. En tout cas, l'éloigne du projet créateur de Dieu. Si le Christ a été tenté au désert, c'est pour nous dire que ce combat n'est pas vain. Non, dit-il, Satan ne l'emportera pas. Non, le mal n'est pas finalement toujours vainqueur. Les trois tentations qu'il connaît sont comme les archétypes de toutes les tentations que nous pouvons connaître. D'où la finale que je vous affiche ici, la finale du texte dans Luc. Ayant épuisé toutes les formes de tentation. Il n'y en a que trois, hein. Trois tentations, mais en fait, elle signifie toutes les formes de tentation. Elle récapitule. Alors le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Alors lisons le passage entier en Luc, chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Reprenons. Première tentation, facile, c'est la faim. La faim, elle est toute naturelle. Elle n'est bien sûr ni un mal, ni une tentation. Ces scénarii sont donc construits pour nous faire comprendre quelque chose de bien plus large. C'est en fait le désir de satiété qui sera un mal, le gavage, le gaspillage, le consumérisme, etc. Vous avez remarqué le si tu es le fils de Dieu. La tentation se présente sous forme de défiance, de mise en cause de ce que Jésus est fondamentalement. Ce qui se dira avec évidence dans la troisième tentation. Vous avez aussi remarqué la simple défense de Jésus, l'Écriture. Seconde tentation, elle est bien plus étrange. Alors le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis. Les pouvoirs donc. Et je le donne, le pouvoir, à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes, etc. Comment se fait-il que le Christ ne conteste pas cette parole inouïe? Je donne les pouvoirs de ce monde à qui je veux. Donc, tous les pouvoirs de ce monde lui appartiennent. La gloire de ces royaumes m'a été remise, dit-il. Et Jésus ne conteste pas, comme c'est étrange. Il faut quand même bien admettre, en effet, par principe optimiste, que tous les pouvoirs politiques ne sont pas sataniques, mais leur gloire, si. C'est quand même pas mal, oui. Pas mal l'écriture de ce petit verset. Toutes les gloires liées au pouvoir, Achtung, c'est une tentation. Et une tentation qui vous conduira toujours dans une déshumanisation. C'est quand même assez remarquable. Facile de comprendre que ces règnes sont ici les mages de toutes les formes de domination ou même d'exercice de l'autorité qui peuvent si facilement déraper. Déraper vers quoi? Vers le désir de soumettre, vers la toute-puissance, vers le petit plaisir mesquin de montrer quelque supériorité. Cette tentation va de ce qu'il y a de plus total, comme ici, vous voyez, dans le Seigneur des Anneaux, ou jusqu'au tout petit galon qui rend ridicule celui qui en use avec orgueil ou prétention. Humiliation, dérision, autoritarisme, etc., relèvent donc de cette tentation. À noter ici que Satan ne dit pas si tu es le Fils de Dieu, comme s'il était entendu, évident, pour l'évangéliste, qu'entre Dieu et les gouvernements de ce monde, la distinction, voire même la volonté de couper les ponts était évidente. Si tu as des pouvoirs divins, tu peux guérir, te nourrir, éviter de te noyer, ou même sauter d'un pont, mais gouverner, ça ne viendra même pas à l'idée. Vous voyez, voilà, il faut vraiment le comprendre ainsi, c'est-à-dire le Christ, profondément religieux, n'a pas la moindre idée de ce qu'est prendre le pouvoir. La troisième tentation, ça se passe en haut du temple de Jérusalem. Le si tu es le Fils de Dieu revient. Et ici, Satan propose tout simplement la magie, ce que j'appelle le haripotérisme. Il demande au Christ de faire un beau coup. Pour montrer comment il est puissant, il faut qu'il fasse quelque chose d'épatant, pour prouver sa divinité. Mais vous savez, nous l'avons vu la première fois que Jésus ne veut pas utiliser les miracles, les coups d'esbrouf, pour convaincre, encore moins ici pour répondre à un défi de collégien. La tentation porte sur le dévoilement de ce qu'est Dieu, sur le dévoiement, j'ai dit dévoilement, non, non, dévoiement de ce qu'est Dieu, et sur le dévoiement de la personne du Christ, de la vérité de son être. Il n'est pas magicien, il n'est pas thaumaturge, il n'est pas tout-puissant, il ne règnera pas. Et, voilà, c'est vraiment des choses qui dévoieraient la personne du Christ et le Dieu auquel nous croyons. Et donc le rabattre, voyez, un grand magicien, un super guérisseur, eh bien c'est tout simplement le détourner de la vérité de son être. La tentation est double pour nous, prendre Dieu pour un magicien ou le prendre pour le dépôt des réclamations, le bureau des réclamations. D'une part, et d'autre part, c'est la tentation qui consiste à nous perdre dans des illusions sur nous-mêmes. Et c'est la tentation donc de faire de Dieu ce qu'il n'est pas, et de céder à cette espèce de magie consiste également à nous dévoyer de nous-mêmes. Nous n'avons pas à demander à Dieu sans cesse qu'il obéisse à nos ordres, à nos désirs ou à nos caprices. Petit schéma pour récapituler. Les trois tentations sont elles-mêmes des récapitulations, je vous l'ai dit, des têtes de chapitre. Avoir, pouvoir et être. Contre quoi le Christ a proposé le jeûne, qu'on pourrait aussi appeler la frugalité, la sobriété, la vie simple. Nous n'avons pas besoin d'avoir tout ça. L'aumône, qui est une attention à autrui et non une domination, on se laisse toucher par autrui. La pitié, plus que la supériorité, c'est le soin, l'attention, la bienveillance, le partage. C'est une réponse, un antidote à la tentation de dominer. Et contre la mentalité magique de Dieu à nos ordres et à notre disposition, la prière, faite de louanges et de gratitude. Voilà pour cet extraordinaire récit des tentations du Christ. Nous allons maintenant ajouter une petite quatrième et dernière partie, le salut de la matière. Il aurait fallu mettre deux points d'interrogation. Je voudrais finir en effet ce parcours du salut en y incluant le monde, les choses, les vivants, les animaux, la matière. C'est presque anecdotique, mais il y a des traces de cela dans les textes que nous venons de voir, aussi bien dans le baptême du Christ que dans les tentations du désert. Encore une fois, je reviendrai sur ce thème très important du salut du cosmos, de la nature, thème très traditionnel dans la pensée de l'Église, mais quelque peu oublié depuis le XVIIIe siècle, et heureusement à nouveau à l'ordre du jour depuis l'encyclique du pape François sur la maison commune. Le premier point de détail, c'est un mot de l'évangile de Marc sur les tentations. Vous vous souvenez, c'est un texte très court. C'est un texte presque sans importance, tellement il est bref. Je vous le relis, c'est très bref. « Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et il était dans le désert durant 40 jours tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » C'est tout. Admettez que c'est quand même très étrange. On ne parle pas des tentations, ce qu'elles sont. Mais Marc ajoute ce détail, il était avec les bêtes sauvages. Vu la sobriété de l'écriture de Marc, qui ne s'encombre jamais de détails, ça veut sûrement dire quelque chose. Mais quoi ? Eh bien, deux choses. On va le trouver dans le livre de Daniel. Et on va le trouver dans Genèse chapitre 1. Une seule figure de l'Ancien Testament vit comme ça avec les bêtes sauvages. Survit, disons, aux bêtes sauvages, devrait-on dire, c'est Daniel. Daniel est un jeune hébreu exilé et employé à la cour du roi de Babylone, tantôt Balthazar, tantôt Darius. C'est dire que ce texte du livre de Daniel est très recomposé, c'est un conte, si vous voulez. Comme ce jeune homme ne veut pas participer au culte du roi, on vénère le roi, eh bien on le jette dans une fosse aux lions. Mais il apaise les lions qui ne le touchent pas. Quand le roi Darius voit ça, il délivre Daniel, bien sûr, pour lequel il a toujours d'ailleurs eu une certaine estime, et il chante une louange au dieu de Daniel. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 6. C'est le même Daniel qui, au chapitre 7, a une vision apocalyptique où quatre animaux abominables et destructeurs sont vaincus par une étrange figure appelée le Fils de l'homme. Des fils d'hommes, vous en avez plein, mais le Fils de l'homme, ben vous ne l'avez qu'une fois. Ce titre, le Fils de l'homme, est le seul d'ailleurs que Jésus accepte et s'attribue à lui-même plus de 70 fois, et non pas Messie, roi ou autre. Ce faible indice posé là discrètement par Marc pourrait donc rappeler que ce Fils de l'homme, au moment où Jésus doit vaincre, non pas quatre bêtes mais trois tentations, et donc il est celui qui va nous délivrer de tous les fléaux, ces espèces de bêtes abominables qui semblent tout vouloir détruire. D'ailleurs, dans la vision apocalyptique de Daniel, elles sont véritablement monstrueuses, elles dévorent, elles piétinent, etc. Alors, on peut appeler ça, je ne sais pas moi, le mal, la perversion, les puissances mondaines, etc. La seconde interprétation de ce point de détail, je vous ai dit qu'il y avait Daniel et Genèse. Ben c'est bien sûr le livre de la Genèse. Quand tout était en paix, que les animaux et l'homme se côtoyaient sans aucune animosité. Situation que le prophète Isaïe reprendra pour décrire les temps futurs où Dieu sera reconnu par tous. Voilà ce qu'il dit dans Isaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce texte très étonnant. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau Et le bœuf, à l'engrais, seront ensemble, un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront le même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et toute jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus le mal ni destruction sur toute l'étendue de ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Voyez comme c'est beau. Eh bien, cette paix qu'établira la connaissance de Dieu, c'est par le ministère de Jésus qu'elle commence. Elle est déjà en jeu quand il se retire au désert. Il y a là une espèce de vision très étonnante dans l'Ancien Testament, Isaïe, et dans cette reprise de saint Marc, d'un salut total du monde, hommes et bêtes, tous les vivants. De même, dans la tradition interprétative des pères de l'Église, jusqu'au XIVe siècle, dans la pensée théologique. On trouve, par exemple, chez Tertullien, alors il est mort en 220, un enseignement où il est persuadé, un enseignement sur la prière, que les animaux eux-mêmes prient naturellement. Je vous cite ce petit extrait, parce que c'est délicieux. Toutes les créatures prient, des bêtes domestiques et des bêtes sauvages, fléchissent les genoux. Et lorsqu'elles sortent de leurs étables ou de leurs repaires, elles regardent vers le ciel, non sans motif. En effet, elles font frémir leur souffle, chacune à sa manière. Quant aux oiseaux, lorsqu'ils s'élèvent, ils se dirigent vers le ciel et ils étendent leurs ailes, comme nous étendons les mains en forme de croix, et ils font entendre ce qui apparaît comme une prière. C'est très étonnant. Et tout ça, vous voyez, c'est le fait d'inclure, hein, le monde des vivants dans le salut. Un second point de détail, celui-ci est une interprétation parfaitement admise dans l'Église d'Orient et inconnue chez nous. Il y a une phrase dans l'Évangile de Matthieu qui est bien étrange. Je vous relis le texte en Matthieu 2. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour y être baptisé. Jean voulait l'en empêcher en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? Mais Jésus lui répondit: Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Lors du baptême du Christ, j'ai dit que le Christ n'avait pas besoin d'être purifié ni converti. Jean ne s'y trompe pas, Jean-Baptiste ne s'y trompe pas. Alors Jésus lui fait cette réponse: Laisse faire. Et le texte confirme, et il le laisse à faire. C'est donc Jésus qui est acteur. Et il ne reçoit pas le baptême, il baptise. Pour l'Église d'Orient, c'est clair, si Jésus vient au Jourdain, ce n'est évidemment pas pour être purifié, c'est lui qui purifie les eaux du Jourdain et qui les bénit. Il se lie au cosmos, à la matière de ce monde, il s'y plonge et la sanctifie. Ouais, c'est une très belle tradition byzantine que nous voyons sous deux formes, dans les icônes et dans le bain de l'Épiphanie. Je vous montre ça. Voici une fresque du XIVe siècle. Vous y voyez deux figures bizarres dans les eaux du Jourdain, en bas. Eh bien, l'une de ces figures symbolise est une allégorie du Jourdain, l'autre du cosmos. Et très nettement, on voit le geste de bénédiction de la part de Jésus. Il bénit, en se plongeant dans les eaux du baptême, il bénit le Jourdain et le cosmos. L'Occident n'ignore pas cette tradition iconographique, mais l'a quelque peu et progressivement oubliée. Voici un manuscrit allemand, hein, du XIe siècle. Le Jourdain y est même nommé Et on voit les poissons qui font la fête à Jésus. Je vous montre une icône contemporaine qui nous sort un peu des copier-coller habituels que nous voyons partout. Cette icône est d'Ivanka Demchouk. C'est une femme qui est née en 1990, donc vous voyez, elle est assez jeune. Elle vit en Ukraine. Ici, elle montre tout le soulèvement cosmique que soulève en effet cette plongée du Logos éternel dans sa création. C'est vraiment ça qui est exprimé. Hein, il y a une espèce d'agitation, de bouillonnement, de turbulence de matière, presque de chahut ou bien de danse de joie. C'est une très étrange icône. Je vous ai parlé des icônes et des bains de l'épiphanie. Les bains de l'épiphanie, Kesako, c'est une tradition byzantine, slave aujourd'hui, davantage slave que grecque par exemple. Le jour de l'épiphanie, 10 jours après Noël, les Russes se plongent dans l'eau pour s'y sanctifier, c'est-à-dire ils veulent participer à cette sanctification cosmique qui commence par les eaux le jour de la fête de l'Épiphanie. Partout dans le monde, les orthodoxes, ce jour-là, bénissent les eaux, ou plus exactement, commémorent la sanctification des eaux. Mais en Russie, c'est un bain rituel et coutumier auquel on procède. C'est d'ailleurs, c'est très curieux, c'est de plus en plus à la mode. Il faut dire que c'est un véritable défi. Il fait souvent moins 10, ou encore plus froid. On taille dans la glace une ouverture appelée Jourdain, vous voyez comme c'est explicite, hein. Et un rituel consacre l'espace avec force, clergé et bénédiction. Une croix de glace est taillée et toute la nuit, les gens défilent pour s'y plonger en se signant. C'est une vraie régénérescence à n'en point douter, hein. Ceux qui n'en meurent pas en sortent ragaillardis, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut vraiment croire que le Christ est sauveur. Sur ce, à la prochaine fois, on se retrouvera pour méditer, réfléchir sur le Notre Père. Allez, à bientôt!